Infiltrée, une femme au stup. Le Colombien. Au milieu des années 90, un tonton vénézuélien avait eu un cousin assassiné au cours d'un terrible règlement de compte. Il désirait ardemment venger la mort de son parent. Il contacte l'officier qui le gère habituellement, mon camarade Gaël, avec un tuyau intéressant. Un Colombien, on va l'appeler Pablo, vient d'arriver en France et chercherait à s'implanter pour importer des quantités colossales de cocaïne. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est la grande période d'exportation de la coke en Europe. La sœur et complice de ce Colombien vit en Espagne. Le tonton accepte de présenter Gaël au fameux Pablo. Le groupe de Gaël fait alors appel à moi. Nous devons passer pour un couple très branché, très parisien, qui veut acheter une grosse quantité de coke. Mon collègue Gaël est du genre beau mec. Il peut faire très flic, comme se donner un style jeune bourge branché. À ce moment-là, je crois que je n'étais plus rousse, mais blonde. Qu'importe. J'avais un look ultra branchouille que j'accentuais pour l'occasion. Nous nous inventons une légende. Je m'appelle Nathalie. Je travaille dans un magasin de fringues entre Le Sentier et Les Halles, à un endroit très hype, où beaucoup de mes clients pourraient être des amateurs de coke. Nous marchons main dans la main, Gaël et moi, vers la brasserie de l'Opéra, où le tonton nous a organisé un premier rendez-vous. Je ne suis encore jamais allée en Amérique latine. Je m'imagine le Colombien comme un parrain dans un film américain, avec l'alcool et la salsa en plus. Nous rencontrons en fait un type très ordinaire, mince, les cheveux courts, à peine typé, et surtout, incroyablement jeune. C'est un trafiquant international, alors qu'il a moins de 30 ans. Faire un coup d'achat à deux, c'est plus difficile que seul, d'une certaine façon. Il faut faire attention à ce qu'on dit et aussi à ce que dit son collègue. Il faut tout se rappeler pour le prochain rendez-vous, exactement comme une script sur un tournage de cinéma doit se souvenir d'une séquence en détail afin que tout soit raccord avec la suivante. Ne pas se contredire. Ne jamais oublier qu'on est censé vivre ensemble, en couple. Un couple branché, coke et vie parisienne. Nous avions, Gaël et moi, révisé méthodiquement toutes les boîtes de nuit parisiennes que nous étions supposés connaître. Nous nous étions inventé une vie commune, des sujets de conversation, des private jokes. Il ne fallait mettre en péril ni notre mission, ni nous, et encore moins le tonton. Au stup, comme à la DGSE, nous devons absolument protéger nos sources, sans lesquelles nous n'obtiendrions rien. Pablo parle français avec un charmant accent sud-américain. Cela facilite les choses, vu mon espagnol chancelant. Nous passons 2 heures avec lui. 2 heures d'infiltration, c'est très long. D'autant plus que nous n'avions pas été préparés à ce genre d'exercice. Le dispositif était classique, voire artisanal. Quelques collègues en planque dans les autres cafés autour de l'opéra, un dans la rue, un autre qui nous surveillait depuis la terrasse. J'avais un micro au fond de mon soutif. Je ne risquais pas une fouille tant que nous restions dans un lieu public. Et les collègues pouvaient entendre ce que nous disions. Mais c'était il y a 20 ans. Et cela ne marchait pas toujours, malgré Pascal, notre spécialiste, qui nous dégotait un matos de plus en plus sophistiqué. Après les présentations d'usage et quelques banalités aimables, Pablo nous explique qu'il veut faire venir de la cocaïne de Colombie. Il en fait déjà venir en Espagne où vit sa sœur. Ce qu'il cherche, c'est un couple, justement. Ce couple partirait en voyage et ramènerait 10 kilos de coke dans son sac à dos ou dans sa valise. C'était le début de ce qu'on connaît bien aujourd'hui. Il cherchait un couple de mules. Il a toute une théorie sur les copains ou copines qui peuvent toujours se fâcher alors qu'un couple, pour lui, c'est plus solide. Nous lui disons que cela nous intéresse. Et que si nous ramions 10 kilos, eh bien nous voulons comme paiement 1 kilo. À nous de le revendre pour nous faire de l'argent. Et bien sûr, tous les frais payés, billets d'avion, repas, etc. Cela lui semble convenable. Il commence à réfléchir, à imaginer notre voyage. Je me demande si je ne vais pas plutôt vous faire passer par le Costa Rica. Nous pensons qu'il est ferré, mais pas question de trop bouger la ligne. Il nous interroge. Pourquoi on veut cette cam? Comment on va l'écouler? Je lui dis que je travaille dans un milieu très branché, très hype. J'ai des clients qui ont de l'argent, prêts à acheter des centaines de grammes. Je ne vais pas vendre des doses à l'unité au hall, pas folle. Nous parlons ensuite de tout et de rien. Nous l'écoutons surtout. Dans ma tête, j'enregistre tout ce qu'il nous dit. J'ai des doutes sur le micro planqué au fond de mon soutien-gorge. Il ne se confie pas encore. Ne dit rien sur lui ou sa sœur. Il répète qu'il recherche des gens. Nous lui répondons que nous sommes partants, mais que nous aimerions réfléchir. Histoire de nous faire à l'idée. Nous prenons des mines. Nous aurions préféré acheter de la drogue ici, à Paris, pas être obligés de partir en Colombie. Il fallait rester subtil. Lui aussi, il avait besoin de réfléchir. Rendez-vous est pris pour dans 3 jours. Nous repartons, toujours à pied, et déambulons un long moment dans le quartier de l'Opéra. Il avait pu embaucher 2 ou 3 lascars pour nous suivre, alors qu'il rentrait à son hôtel ostensiblement. Une équipe nous suit, tandis qu'une seconde file Pablo. Après beaucoup de détours et de moyens de transport divers, nous rentrons enfin au 36. Là, débriefing. D'abord avec Gaël. On prend des notes. On se rappelle l'un à l'autre ce que chacun a dit. On se critique et s'autocritique. À ce moment-là, tu n'aurais pas dû avoir l'air si emballé. Nous mettons tout à plat, le plus scrupuleusement possible. Ensuite, deuxième débriefing avec les autres. L'équipe nous attend et a aussi des idées. Par exemple, les suiveurs peuvent nous dire « La prochaine fois, essayez d'être en terrasse pour qu'on puisse mieux le suivre en partant. » Ou bien « Il faut que vous changiez d'endroit. Ce café, ce n'était pas pratique pour qu'on planque. » Nous affinons ensemble le dispositif. Il faut penser à tous les détails. Parfois, nous sommes obligés de faire une véritable étude des endroits de rendez-vous les plus pratiques pour nous, pour les proposer la fois d'après. Les trafiquants ne nous laissent pas forcément le choix. Notre avantage, avec Pablo, c'est qu'il n'est pas depuis longtemps à Paris et ne connaît pas beaucoup de lieux parisiens. Juste avant notre deuxième rendez-vous, Michel Boucher, notre patron, qui était vraiment un grand spécialiste, nous dit « Les gars, c'est hors de question d'envoyer 2 fonctionnaires de police comme mules en Amérique du Sud. Même si je pouvais vous envoyer au Costa Rica pour amener cette drogue, nous n'avons aucun accord avec ces pays-là. Vous pourriez vous faire arrêter comme trafiquant et finir vos jours dans des geôles au fin fond de la Colombie ou dans les griffes du cartel de Medellín. Et je ne pourrais rien pour vous. Nous allons plutôt le laisser faire venir la coke et puis l'interpeller, lui et les gens qui vont la réceptionner. Donc débrouillez-vous pour qu'il la fasse venir ici avant d'accepter soi-disant de partir. » Il avait raison, mais cela ne simplifiait pas notre affaire. Le rendez-vous suivant est épique. Toujours dans le quartier de l'Opéra, mais dans un café mieux situé pour l'équipe de surveillance. Nous fumons cigarette sur cigarette et buvons des bières. Pablo prenait toujours les plus chères, qu'il nous laissait payer. Gaël et moi, nous nous regardons comme des amoureux complices, dans le genre « Dis-lui, toi, chérie. » Nous racontons que nous avons réfléchi, que j'ai même commencé à tâter le terrain auprès de mes clients potentiels. Ils ne veulent pas attendre 107 ans et ils veulent un échantillon, surtout s'ils achètent 200 grammes. C'est le béaba, non? Et je continue. C'est bien beau, mais c'est quoi la qualité de ta cam, au fait? Pablo nous vante alors la pureté incomparable de sa marchandise. D'accord, nous sommes prêts à partir, mais je pinaille, comme en proie à un stress soudain. Partir en Amérique latine, ramener 10 kilos de cocaïne pure, c'est quand même risqué. C'est pour cela qu'on voudrait un échantillon du kilo. Alors Pablo nous lâche un truc énorme. Nous ne sommes pas les premiers à qui il confie cette tâche. Beaucoup ont réussi, mais d'autres se sont fait prendre. Je joue alors les effarouchés, mais pas trop. Il faut que je reste la bonne personne. Celle à qui on peut confier cette mission de mule, sans pour autant paraître ne rien craindre du tout, et lui dire immédiatement « Pas de problème, compañero. » Il penserait que je suis folle, ou flic. De toutes les façons, outre les recommandations du patron, nous ne pouvons pas faire traîner l'affaire avec Pablo, de rendez-vous en rendez-vous, en nous voyant tous les 3 jours pendant des mois. Notre légende ne pourrait tenir si longtemps. Il faut donc que mon stress paraisse normal, mais gérable. Je fais ma blonde. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur! Je pensais que c'était un peu difficile, mais là... Pablo nous explique qu'il y a eu des ratés. J'ai un mec qui s'est fait prendre à Paris, à l'aéroport, et un autre à Francfort. Excellent. Je sais qu'en faisant des recherches, nous saurons s'il invente ou non. Un couple qui se fait péter à Francfort avec 10 kilos de coke en provenance de Colombie, il n'y en a pas tous les jours. Il faudrait savoir quand l'histoire est arrivée. Je continue sur l'air de « Ciel, mais c'est terrible !» en mettant l'admiration du faible pour l'effort dans mon regard. Très naïvement, je demande « Et c'était il y a longtemps ?» Il répond que c'était il y a 3 mois en avril. Bingo. Nous lui disons que c'est dur son truc, mais que ça vaut le coup quand même. Le mec se rengorge. Il parle de la prise de risque, mais lui, il travaille avec des gens absolument sûrs. Il a des amis à la douane en Amérique latine. Nous serons couverts, etc. Nous faisons mine d'hésiter encore un peu, puis nous acceptons. Il nous a persuadés. Du moins, c'est ce que nous voudrions qu'il pense. Il faudrait juste se revoir encore une fois ou deux pour achever de tout régler. De retour au bureau, nous mettons toute l'équipe sur le coup. Nous obtenons des infos sur le couple qui s'est fait prendre à Francfort. 10 kilos de coke, une belle prise. Il n'avait rien pu dire d'autre que « c'est un mec qui nous a donné de l'argent ». D'autres s'étaient fait prendre avec plus de 7 kilos, mais cela ne disait rien. Il préférait la prison plutôt que de se faire assassiner par les sicarios, les tueurs à gages sud-américains. Quoi qu'il en soit, nous avons ainsi la preuve que Pablo n'est pas un mythomane, mais bien un grand trafiquant international et qu'il va prendre cher. Du moins, nous l'espérons. Les fois suivantes, il nous parle un peu des mules qui ont réussi, sans précision, bien entendu. Il se flatte d'avoir déjà revendu la drogue qu'il a fait venir de Bogota à Madrid par la compagnie aérienne nationale espagnole et qui avait été réceptionnée par sa sœur. C'est pourquoi il ne peut pas aujourd'hui nous faire tester la qualité et la pureté de sa marchandise. Et il est vraiment pressé que nous partions en Colombie. Il se tourne vers moi. « C'est toi, señorita, qui va le ramener l'échantillon. » Nous maintenons notre position. Il nous faut un échantillon pour les clients qui veulent 100 grammes. Nous attendons qu'il fasse éventuellement une autre importation conséquente et qu'il en prélève les 100 grammes. Les rendez-vous prennent une tournure décevante. Pablo nous dit qu'il doit voir avec sa sœur. Certaines semaines, il ne se passe rien, à part qu'il se fait rincer à l'œil par l'administration du 36 Quai des Orfèvres. Nous nous accrochons. Le temps n'est pas le même pour lui que pour nous. S'il estime trop risqué de déplacer de la drogue, il ne bougera pas. On le presse par petites touches. Parfois, notre stress est au plus haut, mais il nous faut sourire et rester zen. Si nous faisons capoter l'affaire, c'est la catastrophe pour nous, l'engueulade de toute la hiérarchie, notre remise en cause, surtout pour moi, je crois. Je refuse l'échec. Gaël est plus subtil. En tant qu'homme, il a une relation très différente avec ce trafiquant. Relation macho de base. Pour les prises de décision, je laisse Gaël parler pour nous deux. Je joue la cruche, juste ce qu'il faut. Un jour, n'en pouvant plus, nous lui mettons vraiment la pression. Si on n'a pas cette quantité, on ne pourra pas partir. Il nous promet de se dépêcher. Notre hiérarchie s'impatiente. Le patron est persuadé que le Colombien nous balade. Cela nous exaspère. Ce n'est pas lui qui est au contact. Même au bureau, tout le monde se lasse. C'est très triste. Les gens du groupe qui nous protègent, qui nous écoutent, en ont marre. Au bout de 3 semaines, ils nous disent « Il faut qu'il se passe quelque chose, les gars, parce qu'on ne va pas y passer l'année. » C'est vrai qu'il y a d'autres affaires en cours. À l'époque, on n'a pas les moyens de monopoliser tant de monde pour des opérations où il ne se passe rien pendant si longtemps. Le dispositif se réduisait de jour en jour, lorsque Pablo nous annonce enfin que nous aurons l'échantillon le lendemain. Nous comprenons que nous n'aurons pas une grosse quantité, mais nous ne pouvons plus attendre. Tant pis, il faut le faire tomber, c'est tout. Il nous donne rendez-vous dans un café pour nous emmener chez lui. Nous savons déjà, par les suiveurs de l'équipe, que c'est un appartement au rez-de-chaussée au fond d'une cour du 10e arrondissement. Parfois, il avait fait 10 fois le tour de Paris avant d'entrer dans cette cour d'immeuble, et on en avait déduit qu'il vivait là. De l'équipe de 10 personnes du début, il ne reste plus que 4 ou 5 collègues. C'est peu, si l'on est conscient que, dans cet appartement, il peut y avoir d'autres trafiquants et des gardes du corps. J'accepte quand même de cacher un micro sur moi. Pablo n'a plus peur de nous. Nous sommes devenus quasiment des copains, et il nous fait venir pour la première fois chez lui. Nous le retrouvons dans un café, et nous partons tous les trois. Évidemment, nous jouons les ignorants quant à l'endroit où il nous emmène. En chemin, il se montre mélancolique. Les temps sont durs. Je suis seule ici, loin de ma famille. Gaël l'écoute. Il est beaucoup plus empathique que moi. Moi, je suis en mode guerre. On avait l'argent, on avait tout ce qu'il fallait. Restait à découvrir quelle quantité de drogue il allait nous proposer. Chez lui, c'est très basique comme décor et comme mobilier. Il nous montre la marchandise, 150 grammes. Il n'en consommait jamais. Nous aussi, nous lui avions dit que nous ne consommions pas. Cela nous évitait d'être obligés d'en prendre devant lui. Avec l'équipe, nous avions convenu d'un mot à placer au cours de la conversation. C'est le moment. Nous prononçons le mot. Nous savons que le collègue à l'écoute va donner le top départ. Tout d'un coup, badaboum. Charge de la cavalerie dans l'appartement. Pablo nous regarde avec stupéfaction, sans haine. C'était ça le plus pénible, son absence de haine. C'était terrible qu'il soit interpellé devant nous. Il est vexé de s'être fait avoir, de se faire menotter devant nous. Gaël marmonne. Putain, j'aime pas ce moment. Le mec, on le connaît, c'est compliqué. Et moi, je me dis, on s'en fout. Qu'on le connaisse ou pas, c'est un trafiquant, point. Je me travaillais au corps pour être blindée. Pablo a fini sa carrière ce jour-là. Il a été poursuivi pour les 150 grammes qu'il avait importés, ainsi que pour l'histoire des mules de Francfort. Je crois que nous étions très bons pour faire ce genre d'opérations, mais pas assez au point pour les finir de la bonne manière, en restant en dehors du coup. Nous n'en avions ni les moyens humains, ni les moyens logistiques. En réalité, j'étais complètement reconnaissable. Même si un coup j'étais rousse, un coup j'étais blonde platine, les cheveux hyper longs ou avec une perruque Louise Brooke au carré, ou encore les cheveux courts, ces changements ne suffisaient pas. Il m'aura fallu faire un stage undercover pour que personne ne puisse me démasquer.